Et voici le journal de Margot Delpierre pour débuter. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le président français a condamné une nouvelle fois hier soir l'offensive turque en Syrie. Emmanuel Macron s'inquiète d'une catastrophe humanitaire, vous l'entendrez. Il a réuni un conseil de défense. Pourquoi faire ? Nous ferons le point avec Franck Madvon.
Les conservateurs nationalistes vont-ils conserver la majorité absolue au Parlement polonais ? Ils ont remporté les législatives hier dans le pays. On attend les résultats officiels. Reportage au siège du parti Droit et Justice.
Daniel Cueff, maire du village breton de Langouette, avait pris un arrêté anti-pesticide très contraignant. La préfecture d'Ille-et-Vilaine veut l'annuler. L'audience sur le fond doit commencer ce matin. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, aux États-Unis, le faible taux de chômage est-il lié au protectionnisme de Donald Trump ? On posera la question à une économiste, Florence Pisani.
Paris et Berlin ont demandé hier soir à la Turquie de cesser son opération contre les forces kurdes en Syrie. Depuis qu'elle a débuté mercredi dernier, 104 combattants kurdes et plus de 60 civils ont été tués, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Emmanuel Macron recevait la chancelière allemande Angela Merkel pour un dîner de travail à l'Élysée. Avant de tenir un conseil restreint de défense sur la Syrie, le président français a pris la parole.
L'offensive turque en Syrie, bien évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Nous avons eu l'occasion l'un et l'autre ces dernières heures d'échanger qui avec le président Trump, qui avec le président Erdogan, et de pouvoir passer des messages clairs. Notre volonté commune que cette offensive cesse. Notre conviction, je crois pouvoir le dire à l'un et l'autre, que cette offensive prend le risque d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Face à cette situation, nous resterons très coordonnés, comme nous l'avons été pour signifier aux Turcs la fin de toutes nos ventes d'armes, mais également sur les initiatives à prendre dans les prochaines heures et les prochains jours.
Emmanuel Macron, qui a donc convoqué un conseil de défense à 22h. Il réunissait notamment le chef du gouvernement, Édouard Philippe, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, des Armées et de l'Intérieur. La France dit vouloir accentuer ses efforts pour obtenir la cessation immédiate de l'offensive. Mais en réalité, que peut Paris, Franck Madvon ?
Alors la France veut d'abord poursuivre ses efforts diplomatiques. Elle fait partie des pays qui ont condamné avec force dès le début l'offensive turque en Syrie. Elle redoute la résurgence de Daesh. On le sait, les Kurdes détiennent des milliers de djihadistes et de leurs proches, dont de nombreux Français. Ils ont annoncé hier d'ailleurs que 800 d'entre eux avaient fui le camp d'Aïn Issa dans le nord de la Syrie. C'est l'une des grandes inquiétudes du moment. Paris en appelle à la responsabilité du président turc Erdogan et demande une réunion d'urgence de la coalition internationale contre Daesh, dont fait partie Ankara. Des mesures ont déjà été prises. La France et l'Allemagne ont suspendu ce week-end leur vente d'armes à la Turquie. L'Italie demande de son côté un moratoire européen sur ses ventes. Les États-Unis envisagent aussi des sanctions. Et puis Paris s'inquiète de la sécurité des Français en Syrie. L'Élysée annonce des mesures pour les personnels civils et militaires. Ce n'est pas officiel, mais des centaines de membres des forces spéciales seraient présents en Syrie. Quelques humanitaires sont aussi déployés dans la zone.
Et on entendait Emmanuel Macron en parler. À l'instant, la France s'inquiète de la situation humanitaire sur place.
Oui, l'offensive turque a déjà fait 130 000 déplacés, un chiffre qui augmente d'heure en heure, des villages se vident et la situation sur le terrain est en train de changer, d'évoluer. Les Kurdes ont signé un accord avec le régime de Bachar al-Assad pour que l'armée syrienne se déploie dans le nord du pays. On ne connaît pas la nature précise de l'accord, mais les Kurdes semblent prêts à des concessions sur le territoire qu'ils occupent en quasi-autonomie depuis 2012, en échange de garanties sur leur sécurité. On redoute à présent un conflit majeur entre la Turquie et l'armée syrienne et ses alliés, à commencer par les forces russes. Dans le même temps, le désengagement américain se confirme. Les États-Unis ont annoncé le retrait de 1000 soldats du nord de la Syrie. Pour le chef du Pentagone, Mark Esper, la situation est intenable.
Les précisions de Franck Madvon. Les Tunisiens n'ont pas attendu le résultat officiel de l'élection présidentielle pour célébrer la victoire de Kais Saied. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale en fin de soirée hier. Cet universitaire sans expérience politique l'a emporté face à un candidat, lui aussi en rupture avec la classe politique. L'homme d'affaires Nabil Karoui, soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Des sondages lui donnent plus de 40 points d'avance. Les Polonais aussi étaient appelés aux urnes pour renouveler renouveler leur parlement. Les ultra-conservateurs au pouvoir depuis 4 ans ont largement remporté les élections législatives. Là aussi, les résultats officiels n'ont pas encore été publiés. Avec environ 43% des suffrages, les membres du parti Droit et Justice voient dans cette victoire un encouragement à poursuivre leurs réformes. Thomas Giraudeau s'est rendu pour France Culture au siège du parti.
Plus de 7 millions de voix. Le PiS Droit et Justice totalise le meilleur score de son histoire. Jerzy Kwiatkowski, ministre du Développement économique.
Je pense que c'est le plus grand succès populaire depuis la fin du communisme. Notre résultat est même encore meilleur qu'il y a 4 ans. Cela veut dire que notre politique sociale et nos résultats économiques sont très bons et que nous avons une croissance qui bénéficie à tout le monde.
Le chômage est au plus bas, à 5%, la croissance très élevée et le PiS se targue d'avoir redistribué les richesses avec son programme d'allocation familiale pour tous. Mateusz Lewicki est un jeune militant du parti.
Pour moi, nous avons deux mesures très importantes, l'exonération d'impôts pour les moins de 26 ans et les allocations familiales. Moi, je veux fonder une famille et tout cela va m'aider.
Poursuite des programmes sociaux et du bon changement, slogan des précédentes élections, le chef du PiS, Jarosław Kaczyński, trace la ligne pour les 4 années à venir.
La Pologne doit encore changer pour le meilleur. Notre principale force, c'est la crédibilité. Et nous devons la conserver. Ce que nous faisons est bon, réaliste et responsable.
Allusion à l'opposition qui n'aurait jamais tenu ses promesses de campagne selon de nombreux Polonais. Elle se tourne déjà vers la présidentielle au printemps pour tenter de contrebalancer la victoire écrasante du PiS au Parlement.
Le reportage de Thomas Giraudeau. En Hongrie, Viktor Orban a subi un revers. Hier, le parti national conservateur du Premier ministre a été battu aux élections municipales à Budapest. La ville a été remportée par un candidat de centre-gauche. Après quasiment 2 semaines de crise, un accord a été trouvé cette nuit en Équateur entre le gouvernement et le mouvement indigène. Le décret polémique qui prévoyait la suppression des subventions au carburant a été retiré. Il avait pour effet de doubler les prix à la pompe. Les deux parties en préparant un nouveau. 7 personnes sont mortes et plus de 1300 blessés depuis le 3 octobre.
7h07, vous écoutez les matins de France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Christian Jacob a été élu hier président du Parti Les Républicains avec plus de 62% des voix.
À 59 ans, le chef de file des députés LR, 3 fois ministre par le passé, prend les rênes d'un parti mal en point. Environ 62 000 adhérents à jour de leur cotisation ont voté, soit un peu moins de la moitié. Et nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La Cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict aujourd'hui dans l'affaire de l'attentat raté près de Notre-Dame. Il y a 3 ans, une voiture remplie de bonbonnes de gaz avait été retrouvée en face de la cathédrale. 8 personnes sont jugées depuis 3 semaines. On récapitule avec Antoine Marette qui a suivi ce procès hors norme.
Dans ses réquisitions, l'avocat général s'est félicité des débats riches et denses pendant les 3 semaines d'audience. Et ce, malgré l'absence de 2 accusés, Amel Sakaou qui a refusé de comparaître et Rachid Kassim, sans doute mort en zone irako-syrienne. 2 femmes ont particulièrement occupé les débats, Inès Madani et Ornella Gilligman. Ce sont elles qui sont accusées d'avoir tenté de commettre l'attentat en face de Notre-Dame. Et du début à la fin du procès, chacune a accusé l'autre de l'avoir entraînée dans cette histoire. Ornella Gilligman a plaidé la passion amoureuse manipulée par Inès Madani qui se faisait passer pour un djihadiste. Sauf qu'Ornella Gilligman était radicalisée bien avant cette rencontre virtuelle. Elle avait même essayé de rejoindre la Syrie lors d'un voyage en Turquie. Le parquet a requis contre elle 25 ans de prison, 30 ans contre Inès Madani, elle qui avait tenté de commettre un nouvel acte criminel après l'attentat manqué devant Notre-Dame. Ce procès aura permis de dévoiler un visage méconnu du djihadisme, version féminine. Sur les 8 accusés, 6 sont des femmes.
Antoine Marette. Un cargo s'est échoué dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio dans la nuit de samedi à dimanche. Il transportait des bobines d'acier. Aucune pollution n'est à déplorer pour le moment, selon la préfecture maritime. La remise à flot aura lieu d'ici quelques jours. Le maire de Langouette, village de 600 habitants, devra s'expliquer ce matin devant le tribunal administratif de Rennes. L'élu breton avait pris au mois de mai un arrêté anti-pesticides plus contraignant que ce que prévoit la loi. Il interdisait les pesticides à moins de 150 mètres de toute habitation. Il est depuis suspendu en attendant que la justice se prononce sur le fond. Sandy Dauphin.
Depuis qu'il a fait la une des journaux avec son arrêté anti-pesticides, Daniel Kueff a reçu des dizaines de lettres de soutien.
C'est toutes les cartes de vœux que nous avons reçues depuis la publication de l'arrêté.
Donc il y a une quinzaine de grosses enveloppes marron de chaque région, la Joie Grand Est, Occitanie.
Ça c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous voyez, monsieur, je suis avec vous à 100%. J'ai pas le temps de les lire toutes.
Et ses arguments pour défendre son arrêté anti-pesticides sont prêts pour l'audience d'aujourd'hui.
Moi je pense que c'est parfaitement légal puisque je constate qu'il y a une carence de l'État à protéger la population. Je vais le défendre devant le juge et deuxièmement, je respecte la Constitution française dans laquelle est inscrit le principe de précaution.
Argument balayé par Dominique Lorette, agriculteur dans la commune voisine de Gévezé. Il possède quelques hectares à Langouette.
J'en ai très peu, mais j'en ai un petit peu.
Concrètement, ça veut dire quoi si vous faites une bande de 150 mètres non traitée ?
Écoutez, c'est très simple. J'ai réduit ma surface de 2/3 à peu près. Bon, ce maire, il a voulu faire le buzz, il l'a fait, c'est formidable. Attendez, je suis pour l'agriculture raisonnée. Moi, j'ai largement réduit. Hein. Et puis, on en met quand il y a besoin. Je ne vais pas vous dire que je suis heureux quand je prends mon tracteur et mon pulvé. Hein.
Quelques fermes plus loin, un agriculteur bio explique au contraire qu'il ira soutenir le maire de Langouette aujourd'hui. Une manifestation est prévue devant le tribunal de Rennes.
Sandy Dauphin. Météo France place 17 départements de l'Ouest et du Centre en vigilance orange aux orages à partir de 14h. Cela va des Landes à l'Eure-et-Loire. Les pluies seront de courte durée mais intense, parfois accompagnée de chutes de grêle et de rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h localement. Ailleurs, le temps sera nuageux. Il ne fera beau que dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, comptez 15 degrés à Brest, 21 à Lille, 23 à Paris, 24 degrés à Strasbourg et 26 à Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.